Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue dans cette rencontre dans la librairie Mola qui accueille aujourd'hui Alain Naze qui va vous parler et on va discuter avec lui de son livre Manifeste contre la normalisation gay. Alors que je vous dise deux mots quand même sur Alain, que je le présente, vu qu'il a fait un long trajet pour venir jusqu'ici. Alain est enseignant de philosophie à Nantes. Il est l'auteur de tant récits et transmissions chez Walter Benjamin et Pierre Paolo Pasolini, publié en deux volumes chez l'Harmattan, dont vous avez d'ailleurs des exemplaires derrière vous. Jacques Demy, l'enfance retrouvée, en 2014. Il a également dirigé l'ouvrage collectif Walter Benjamin, Politique de l'image, qui est également disponible en librairie, et vient de publier un manifeste donc contre la normalisation gay chez La Fabrique Édition, livre autour duquel nous allons discuter aujourd'hui. Alors, deux mots peut-être sur l'ouvrage avant de laisser la parole à l'auteur. Un ouvrage qui aborde frontalement une thématique récurrente dans les mouvements sociaux et les identités minoritaires, le tiraillement entre, d'un côté, le processus d'assimilation et, de l'autre côté, le processus d'intégration. Alors, selon Alain Naze, la communauté gay est entrée de plein pied dans l'assimilation en négligeant les coûts de cette normalisation. L'un des horizons abandonnés par les LGBT, à en croire l'auteur, est celui de l'utopie. C'est d'ailleurs cela, à cela que s'emploie le livre, je cite, à réapprendre à entendre et à désirer les appels au dévoiement, les incitations à la dérive. Interrogeant tour à tour et de façon ouvertement critique la notion de mariage pour tous, de communauté gay, de globalisation gay ou d'ouverture des droits, Alain Naze nous invite à une lecture révolutionnaire des mouvements et des identités sexuelles. Alain, la parole est à toi.
Merci, merci pour votre présentation aussi. Donc d'abord, je voudrais remercier la librairie Mola, effectivement, de me permettre de réaliser une présentation de l'ouvrage. Alors je vais revenir un petit peu, effectivement, sur le livre et quelles étaient mes intentions, finalement. Oui, en effet, il s'agit de, le titre le dit, donc de s'opposer à ce que je considère être une forme de normalisation gay, et le mariage gay n'a pas été autre chose pour moi qu'une sorte de révélateur, simplement, de cette normalisation que je ne limite donc pas au simple mariage gay, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui remonte bien plus loin, et d'une certaine façon, ça m'a paru important d'établir cela parce que il n'est pas rare, et je pense en particulier à Frédéric Martel, des auteurs de ce genre-là, qui ont tendance à établir une sorte de relation de continuité entre les mouvements de libération gay des années 70 et le mariage gay lui-même, qui serait de cette manière l'achèvement, pourrait-on dire, quoi, de ce mouvement de libération. Or, il me semble justement que les mouvements de libération des années 70 obéissaient à une logique radicalement différente. Et c'est ce renversement, finalement, de paradigme que j'essaye d'interroger, voir ce qui, entre-temps, s'est modifié et en quoi, justement, ce qui pouvait être porteur de liberté me semble être aujourd'hui beaucoup moins le cas. Je dirais que le mariage gay, s'il ouvre effectivement une forme de liberté juridique, pourrait-on dire, ou en tout cas au moins une forme d'égalité juridique, ne débouche pas nécessairement sur des modalités effectives de liberté. Alors, j'ai sélectionné un certain nombre de thèmes pour parcourir un petit peu le livre. Je n'ai évidemment pas tous les faire, mais ce qui me paraît important pour comprendre le renversement qui s'est fait entre ces deux périodes, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de logique d'inclusion. Autrement dit, la demande, de, si je reprends l'angle d'attaque du mariage gay, on pourrait dire finalement que ce qui est avant tout recherché, me semble-t-il, c'est une recherche d'inclusion dans la société, une demande donc de reconnaissance, bien évidemment, quoi, reconnaissance sociale et d'inclusion au sein de la société. Or, ce qui pose déjà un certain problème, me semble-t-il, c'est que cette demande d'inclusion se fait donc au sein d'une société dont on ne va pas contester même la structure, puisqu'au fond, on reprend la forme mariage, qui est une forme tout de même envisagée à partir des modes d'existence hétérosexuels. Donc il s'agirait pour les homosexuels de se fondre dans une forme d'existence qui, au fond, était la forme d'existence pensée pour des modalités d'existence hétérosexuelles. Donc pas de remise en question de ce modèle-là, il s'agit donc de se fondre dans ce modèle-là, mais par là même, on lui reconnaît de fait, me semble-t-il, un statut d'universel, comme si l'institution sociale de relation entre des individus passait nécessairement par le mariage, qui était accordé aux hétérosexuels et aux homosexuels, il aurait manqué simplement cette reconnaissance-là. Et on voit d'emblée combien les choses sont limitées si on envisage les choses de ce côté-là. C'est-à-dire que le mariage gay en lui-même va en effet constituer, si l'on veut, quelque chose. La simple suppression d'un interdit, c'est ce qu'on pourrait appeler finalement la dimension négative, si vous voulez, de cette loi. Donc, effectivement, une forme de libération. La suppression d'un interdit, l'interdit de se marier entre personnes de même sexe qui disparaît avec l'autorisation du mariage gay. De la même manière qu'on peut considérer qu'est libérateur, libératrice plutôt, la décision par laquelle on a supprimé en Allemagne l'article 175 qui interdisait les relations sexuelles entre personnes de même sexe jusqu'à une date très récente. Voilà. Donc là, on a affaire à des gestes juridiques qui, en effet, sont libérateurs. Ce qui me semble être radicalement différent dans le cas du mariage gay, c'est qu'on a affaire précisément à une forme, là pour le coup, de droit qui est un droit prescripteur, pourrait-on dire, quoi. C'est-à-dire que non seulement on autorise une forme qui est une forme d'union, hein, qui jusqu'ici était interdite, mais par ailleurs, c'est une forme, finalement, une modalité d'existence, d'une certaine manière, qui se trouve incluse dans l'institution à laquelle les gays désormais ont accès. Autrement dit, qu'on le veuille ou non, le mariage, et après chacun fera ce qu'il voudra évidemment dans l'existence concrète, mais en tout cas c'est toujours le couple, toujours un couple forcément, c'est toujours également une forme de fidélité énoncée dans les termes de l'union réalisée, etc. Voilà, on reste toujours dans ces schémas-là, et d'une certaine manière, on sort, pourrait-on dire, quoi, de ce qui était simplement un droit, pourrait-on dire, négatif, comme la simple suppression d'un interdit. Évidemment, ce n'est pas la suppression d'un interdit qui fait en elle-même la liberté, mais elle libère, au fond, un champ où des pratiques, justement, de libération peuvent prendre place. Et c'est précisément ce qui n'a pas lieu dans le cadre du mariage gay, ce qui me semble, justement, une limitation radicale. Alors, évidemment que le mariage gay avait lui-même été anticipé, pourrait-on dire, par le PACS. Évidemment. Mais le Pax obéissait, pourrait-on dire, à une toute autre logique. Effectivement, le Pax était intervenu à la suite, évidemment, de l'épidémie de sida. Et donc, la demande, qui pouvait d'ailleurs prendre parfois la forme d'une demande d'un mariage, quoi, hein, éventuellement d'un mariage entre personnes de même sexe, n'avait évidemment pas le même sens. Là, il s'agissait effectivement d'éviter qu'un des deux partenaires puissent se retrouver à la rue, etc. Enfin, voilà. Donc là, c'était des choses très urgentes, et la demande de mariage, dans ce cas-là même, avait un sens tout différent de ce que ces demandes-là prendra plus tard. Donc, au bout du compte, ça n'est pas le mariage qui était retenu, mais une forme particulière qu'on appellera le Pax, quoi. Et il se trouve que dans une mouture précédente du Pax, alors, je pensais que c'était dans le CUC, mais apparemment, depuis, on m'a dit qu'une des dernières moutures du PACS lui-même, qui s'appelait déjà PACS, contenait ces dispositions-là. Alors bon, ce sera vérifié, mais c'est possible. La disposition selon laquelle il était possible de se marier à l'intérieur d'une même fratrie. Et donc ça, c'était, me semble-t-il, intéressant, parce qu'on arrivait justement à quelque chose qui jetait, pourrait-on dire, du flou dans la relation qui était ainsi instituée. Quelles allaient finalement, quelles allaient être les relations finalement entre les différents, entre les membres finalement de cette union. Est-ce qu'on allait se limiter à une union à deux, d'ailleurs, la chose n'était pas non plus acquise, quoi. On pouvait envisager voilà, des choses variables. Et là, pour le coup, là, l'union n'était pas du tout le calque de la, du mariage hétérosexuel et même ne préparait en rien le mariage homosexuel. Il ressortissait, pourrait-on dire, à une autre logique, quoi. Or, c'est précisément cela qui fait qu'un grand nombre de gays ont refusé, de gays et lesbiennes ont refusé justement cette proposition-là, parce que, évidemment, ça obéissait à une logique qu'on pourrait dire dématrimonialisante, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un rapport de continuité avec le mariage. Et donc là, ils se sont dit, si on s'engouffre là-dedans, on n'aura jamais la poursuite qui sera le mariage avec la possibilité d'adopter. Donc ils se sont opposés à cela, et par ailleurs, en même temps, et ça c'est pas faux, il n'y avait pas de reconnaissance, qui était une des demandes, justement, de reconnaissance sociale de l'homosexualité à travers cette union telle qu'elle était proposée, avec la possibilité donc de contracter à l'intérieur d'une fratrie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Je ne vais pas développer davantage sur ce point. Je vais évoquer aussi une autre dimension qui est liée finalement à cette volonté, pourrait-on dire, d'inclusion qui est qui est en rupture par rapport aux demandes des gays, enfin plutôt aux revendications, quoi, et au mouvement de libération des gays dans les années 70. C'est en particulier ce qu'on va appeler, d'un terme voilà, que j'utilise dans le livre et que je vais essayer d'expliquer assez rapidement, d'homonationalisme. D'homonationalisme, c'est-à-dire que là, on a encore affaire à une logique d'inclusion. Homo-nationalisme serait une forme d'inclusion, pourrait-on dire, dans le corps de la nation. Alors le terme a été créé à partir du cas, finalement, des États-Unis. Aux États-Unis, les gays, au moment de la guerre d'Irak, pour un certain nombre d'entre eux, pour un certain nombre d'associations, se sont embarqués, justement, dans la guerre contre l'Irak, se sont révélés favorables à la guerre contre l'Irak, et à travers cela, évidemment, le résultat a été une sorte d'inclusion, évidemment, dans le corps de la nation. Les homosexuels faisaient partie, finalement, de ces combattants, et donc étaient intégrés dans l'armée avec, évidemment, cette sorte d'allégeance qu'ils faisaient, quoi, aux visées, alors je dirais hégémonistes, quoi, des États-Unis. Évidemment, c'est une partie simplement qui optait pour cela, mais à travers cette logique-là, il est évident que c'était en effet une forme d'inclusion qui était recherchée, et on peut dire d'une certaine façon qu'en France, les choses se sont réalisées également, mais sur un tout autre angle, un tout autre axe plutôt. L'axe qui a été valorisé ici, ça a été l'axe de la laïcité, au fond. L'axe de la laïcité, à partir duquel, alors, de manière assez anecdotique, finalement, un certain nombre de gays ont été, par exemple, séduits par le discours de Marine Le Pen, qui a pu vanter les mérites de la laïcité, etc., et qui a à un moment pu sembler, au moins verbalement, être la défenseur, finalement, des libertés gays, etc., quoi. Et elle n'est pas la seule, justement. C'est pour ça que quand on parle d'un mouvement de droitisation des gays, j'aimerais, justement, qu'on ne limite pas l'engagement des gays auprès de l'extrême droite en particulier, mais l'engagement des gays auprès, également, de partis politiques qui sont eux-mêmes des partis qui se sont droitisés, quoi. Il suffit d'entendre Manuel Valls quand il parlait de laïcité, etc. Il n'y a pas une différence si, de nature, quoi, avec le discours finalement qui est celui de l'extrême droite. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le discours d'inclusion va se faire à travers, au fond, un rejet, pourrait-on dire, quoi, de tout ce qui serait de l'ordre, on pourrait dire, du religieux, mais du religieux pensé essentiellement sous la forme de l'islam, quoi. Donc on va dire finalement que l'homonationalisme en France va prendre la forme, si vous voulez, d'un rejet, d'une peur, finalement, de l'islam dans un grand nombre de mouvements gays qui vont considérer effectivement que la laïcité est une défense contre ce qui serait pour les gays une menace, à savoir l'islam et plus généralement les religions envisagées comme facteur de régression des libertés, d'obscurantisme, etc. Enfin, tout le discours qu'on a pu entendre, quoi. Donc ça également, il me semble que c'est un point important parce qu'on a affaire du coup à un discours gay qui devient homogène au discours national, pourrait-on dire. Et d'une certaine façon, lorsqu'on a eu affaire au meurtre du policier aux Champs-Élysées, policier gay, alors là, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à une journée de deuil national avec effectivement François Hollande qui avait tout organisé. Et donc, il y avait un hommage retransmis par BFM toute la journée, etc. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez massif. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait, on pourrait dire, finalement, une manière qui était celle du pouvoir, quoi, de recueillir les fruits, justement, de cette demande d'inclusion des gays. C'est-à-dire que là, dans la nation, c'est-à-dire que là, pour le coup, il se trouvait que c'était un policier qui, par ailleurs, avait été intervenu au moment des attentats contre le Bataclan, etc. Donc on avait l'opportunité, finalement, de placer les gays d'intégrer les gays finalement au corps de la nation, de dire également les policiers sont comme tout le monde, finalement, vous voyez, il y a des gays aussi, et donc d'une certaine manière, c'est aussi une façon de contester l'idée que la police puisse être structurellement homophobe, par exemple. Hein. Voilà, on avait tout un ensemble de bénéfices finalement que l'État a su en tirer, quoi, au-delà évidemment de la dimension tout à fait émouvante de la cérémonie, avec par exemple le conjoint qui était amené à s'exprimer en public, etc. Quoi. Bon, je ne vais pas être trop long quand même. Oui, je voudrais quand même revenir, tu as parlé de la communauté, quoi, hein. J'aimerais en effet revenir sur cette idée. Quand on parle de communauté homosexuelle, c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Hein. On ne sait jamais bien vraiment de quoi on parle, donc il faut préciser. Si on parle de communauté homosexuelle, par exemple, communauté gay, communauté LGBT, c'est encore plus compliqué, on peut le définir dans ce cas-là sur des bases, on pourrait dire, objectives ou objectivistes. Dans ce cas-là, serait considéré comme homosexuel quelqu'un qui aurait des rapports sexuels avec des partenaires de même sexe. D'accord. Mais dans ce cas-là, il faudrait dire que la communauté homosexuelle existe, on pourrait dire, d'une manière virtuelle. Elle n'est pas actuellement rassemblée, mais elle existe à travers justement cette caractéristique objective qui serait le fait d'entretenir des relations sexuelles avec des individus de même sexe. Ça, c'est une forme de communauté que je considère comme une forme de communauté abstraite, virtuelle, qui n'a pas de consistance. Alors que la communauté véritable, me semble-t-il, est une communauté en acte. On pourrait appeler cela une communauté politique. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'au temps du sida, par exemple, là, on a pu parler d'une communauté gay, en effet, puisque, à travers l'action, elle s'est constituée comme telle. Il y avait un mouvement qui l'a constituée comme communauté politique. Quoi. Et on pourrait... C'est un peu la même chose, si vous voulez, quand on parle, par exemple, d'Israël, quand Israël considère, par exemple, que tous les Juifs ont à se sentir solidaires de la politique d'Israël, là, on fait référence, d'une certaine manière, à la communauté juive, quoi. Et la communauté juive aurait à se sentir solidaire d'Israël. Mais évidemment, là encore, c'est une communauté tout à fait virtuelle, quoi. Communauté virtuelle qui est, encore une fois, fondée sur des bases objectives. Donc, ce qui m'a intéressé dans ce travail-là, c'est de montrer, justement, que la revendication d'un mariage gay me semble beaucoup plus être porté par une communauté gay dans le sens de communauté d'appartenance, pourrait-on dire, quoi, et beaucoup moins par une communauté politique. On n'a pas eu, pourrait-on dire, de grandes manifestations pour la demande du mariage gay, sinon en réaction aux manifestations Manif pour tous, etc., quoi, hein, qui étaient des manifestations plutôt d'opposition à cette opposition au mariage. Quoi, hein, c'était plutôt ça. Mais il n'y avait pas positivement, me semble-t-il, en tout cas, une communauté qui réclamait à corps et à cri, finalement, ce mariage gay. Donc, d'une certaine manière, ça ne me semble pas quelque chose qui soit venu contenter, pourrait-on dire, ou en tout cas satisfaire, si vous voulez, un mouvement de fond, hein, un mouvement de fond qui aurait été un mouvement politique. Je termine vraiment par une dernière remarque, je serai de toute façon à y revenir éventuellement, sur la notion d'homosexualité. Je vais finir peut-être sur ça, je ne suis pas trop long.
On attend.
C'est bon ? D'accord. Sur la notion, oui, d'homosexualité, j'aimerais y revenir. Enfin, y venir. Dans le livre, je m'inspire énormément de Guy Ockenheim, et Guy Ockenheim définissait l'homosexualité sur une base qu'il appelait non substantielle. Il considérait donc que l'homosexualité était quelque chose, elle était intéressante plutôt quand elle était non substantielle. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à une homosexualité qu'il appellerait justement substantielle, qu'il appelle d'ailleurs par ailleurs une homosexualité blanche, pour d'autres raisons aussi, on a affaire dans ce cas-là à une homosexualité qui ne l'intéressait pas beaucoup, parce que, dit-il, au fond, la seule différence avec l'hétérosexualité, c'est le sexe finalement des partenaires, quoi. Ça se limite à ça. Alors que disait-il, une homosexualité non substantielle est une homosexualité qui ne se définit pas de cette manière-là. Elle est beaucoup plus fluide et il va dire, il n'y a pas au fond quelque chose qu'on pourrait appeler l'homosexualité. Il y a plutôt, considérait-il, une sorte de, ce qu'on pourrait appeler de l'homosexualité qui circule. Ce qui est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, en effet, de l'homosexualité qui circule. Ce qui veut dire, au fond, que l'homosexualité ainsi entendue ne se limite désormais plus, justement, à des individus qui, objectivement, seraient définis comme homosexuels. Ce qui veut dire, dans ce cas-là, que si l'homosexualité était une question politique aussi pour Guy Ockenheim, c'est qu'elle ne concernait pas simplement une communauté particulière, mais qu'elle concernait, finalement, l'ensemble de la nation. L'ensemble de la nation, l'ensemble même au-delà de la nation, quoi, hein, l'ensemble des individus. Et si on en arrive justement au mariage gay lui-même, le mariage gay lui-même précisément aurait été intéressant si on s'était saisi finalement de cette occasion-là pour envisager une forme d'institution qui aurait pu être une nouveauté pour la société elle-même, quoi. Essayer d'inventer finalement une forme d'institution qui n'aurait pas été le calque du mariage hétérosexuel, qui donc aurait apporté éventuellement une innovation susceptible d'être récupérée par l'ensemble de la société, quoi. Donc là, on a l'idée que défend Michel Foucault, par exemple, hein, l'idée qu'il serait intéressant de subvertir l'idée d'institution au lieu que l'institution soit ce qui est donné en premier et de quoi découle finalement une forme ou une modalité d'existence. Le plus intéressant, dit-il, ce serait d'envisager des formes d'existence et essayer d'envisager une forme d'institutionnalisation de ces modes d'existence en leur souplesse, en leur variabilité, etc. Donc c'est une manière radicalement différente d'envisager l'institution. Donc c'est quelque chose qui serait tout sauf appauvrissant. Parce qu'évidemment, que l'institution de mariage, comme je le disais tout à l'heure, quoi, elle est fondamentalement appauvrissante. Elle contient déjà finalement tout un programme qui est le programme finalement de l'institution mariage énoncé avant même justement l'existence maritale, quoi. Et si on prend les choses à l'envers, évidemment ça redéfinit fondamentalement l'institution. Parce que Foucault n'était pas contre toute institutionnalisation justement des relations, y compris des relations homosexuelles. Simplement, il ne voulait pas que ça aboutisse à une sorte d'appauvrissement des modes d'existence. Et il disait, si on leur accorde aux homosexuels le mariage, finalement, ce sera, au bout du compte, une forme d'appauvrissement pour l'ensemble de la société. Et c'était ça qui, c'était dès 82, quoi, hein, qui lui faisait justement rejeter ce qui aurait été une revendication, qui n'existait pas encore à cette époque-là, quoi, qui aurait été une revendication pour un mariage gay.
Merci Alain pour ces premières informations qui ne disent pas tout du livre, hein, non, ce non, qui va non. nécessiter que les gens l'achètent. Hein, on voit bien ton côté commercial. ça ne te plaît pas quand je dis ça. J'imagine que vous avez des questions. Alors, très égoïstement, je vais me donner la parole. C'est le privilège des personnes qui modèrent. Et donc, ce sera aussi peut-être pour vous aussi l'occasion de rebondir sur à la fois ce qui a été dit par Alain, puis nos échanges. J'aurais une première question, Alain, dès le début de ton livre, tu te prémunis d'une attaque, celle qui consiste à considérer comme homophobe toute critique du mouvement autour du mariage pour tous. Or, tu as un avis critique sur ce mouvement-là. Alors, pour toi, pourquoi était-ce nécessaire de se prémunir de cette critique ?
Oui, dans un premier temps, ce qui s'opposait finalement d'abord à la revendication d'un mariage gay, c'était essentiellement des mouvements de droite, catholique, etc. Et dans un premier temps, de cette manière, il était à peu près impossible de faire entendre un écart vis-à-vis d'une adhésion envers le mariage gay. Et donc, à ce moment-là, je me suis interdit finalement d'intervenir, d'essayer de faire entendre un discours qui soit finalement nuancé et qui éventuellement aurait été plus que réservé quant à cette revendication-là. Je me suis interdit de le faire. Et voilà, dans un premier temps. Et après, tout de même, je me suis dit quand même, dans un deuxième temps, maintenant, voilà, le mariage a été voté, etc. Là, enfin, on peut commencer à parler. Et donc, du coup, en même temps, je voulais préciser que cette opposition qui était la mienne n'est d'abord pas une opposition au vote de la loi. Du point de vue de l'égalité, je ne vois pas comment on pourrait s'opposer au vote de la loi elle-même. C'est plutôt les... le fait que ces revendications-là soient nées dans les milieux homosexuels qui me pose un problème. Quelle est donc cette subjectivité homosexuelle qui réclame finalement le mariage gay? C'est plus ça qui me posait un problème. Donc je voulais tenir un discours critique et en même temps, évidemment, je voulais dire que tout discours critique n'était pas homophobe. Pour le mien, ça me semblait pas être tout à fait ambigu, quoi. Donc de ce point de vue-là, je ne craignais pas vraiment que ça puisse être interprété comme cela. Mais par là même, je voulais également m'élever contre un certain jugement, finalement, qui me semble un jugement à l'emporte-pièce, où qui que ce soit, pendant le débat, qui pouvait émettre une réserve, quoi, hein, même une réserve qu'on peut juger mal fondée, quelqu'un qui, par exemple, pouvait s'inquiéter d'une modification de l'ordre symbolique, etc., des choses de ce type-là, quoi, hein. On peut considérer que, finalement, l'ordre symbolique n'a pas à être une chose immuable, qu'il peut être remis en question, etc., et que, d'une certaine manière, il l'a toujours été à travers les temps. On peut considérer cela, mais malgré tout, il ne me semble pas que cette opposition qui voulait justement éviter le mariage gay pour éviter l'adoption et donc maintenir l'idée ou la fiction, quoi, hein, du père et de la mère, je dis qu'on pouvait entendre cela et que ce n'était pas un discours homophobe. Voilà. De la même manière, je trouve qu'un grand nombre de discours religieux étaient des discours que je ne qualifierais pas d'homophobes. On ne peut quand même pas demander à une religion de dire « oui, bravo, vive le mariage gay », etc. Non, on ne doit pas attendre ça d'une religion, mais d'une certaine manière, le discours religieux, est-ce qu'on peut le qualifier uniquement d'un discours homophobe? Alors qu'il puisse y avoir une instrumentalisation, évidemment, du discours religieux, c'est évident, quoi, hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire que les deuils mettant ce qu'ils sont, ça aurait été encore pire, d'une certaine manière, si le discours adopté par les ecclésiastiques avait été une sorte de tolérance de façade, quoi. Ça aurait été encore bien pire. Je préfère qu'il s'y oppose, et en s'y opposant, je ne considère pas qu'il soit foncièrement homophobe. Le terme d'homophobe est un terme compliqué, de toute façon, quoi, difficile de maniement, mais voilà, je voulais également dire ces choses-là, quoi.
Alors, on chemine encore dans ton livre autour d'une autre question. Tu inscris assez clairement ton propos dans une critique de la réappropriation des LGBT par la norme. Alors, dit comme ça n'a pas trop de sens, la norme, en tout cas par ce qui est normatif. Et notamment, tu prends l'exemple de Barilla, alors c'est à la fois drôle et pas. Réappropriation donc des gays, des LGBT par la norme, mais aussi par les normes de marché, en quelque sorte, et des normes de communication. Est-ce que pour toi, s'opposer à la normalisation gay, pour reprendre tes termes, est-ce que ça passe par une opposition au capitalisme?
Alors, je ne dirais pas les choses d'une manière aussi massive. Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'est plutôt, me semble-t-il, que la normalisation me semble obéir à une volonté, justement, comme je disais tout à l'heure, d'inclusion. Volonté d'inclusion dans une société, j'ai envie de dire, dans une société telle qu'elle est. C'est une société telle qu'elle est, c'est une société hétérocentrée, une société néo-capitaliste, etc., quoi. Donc cette demande de normalisation va épouser, d'une certaine façon, les formes de la société actuelle. Donc le mariage n'est jamais que l'inverse, l'inverse si on veut, en tout cas le calque, pourrait-on dire, du mariage hétérosexuel. Et la volonté d'inclusion des gays dans cette société-là me semble également être une revendication qui s'est fréquemment faite au détriment, je pourrais dire, des marges, d'une certaine manière. Au détriment des marges, je pourrais parler des plus déshérités, également des musulmans, etc., quoi, hein, qui se trouvaient écartés. Et de cette manière, si on ouvrait une revue comme Têtu, par exemple, hein, qu'on regarde un petit peu les publicités, par exemple, on n'ose même pas mettre le prix des vêtements, quoi, hein. Donc, en gros, cette revue-là s'adresse à un public particulier, un public qui a fort pouvoir d'achat. Et donc, d'une certaine manière, il me semble que les gays se sont présentés avec une façade, finalement, qui était une façade supposée présentable, que je trouve tout à fait détestable. Voilà. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est à combattre plus que directement le capitalisme, parce que voilà, je ne vais pas entrer dans un mécanisme... Ce n'est pas une réflexion mécaniste où il s'agirait de dire en s'opposant au capitalisme, je vais travailler à la libération des gays comme les marxistes ont pu penser ou plutôt les communistes ont pu penser qu'en libérant le prolétariat, on finirait par libérer les femmes, etc. Enfin, voilà.
Et dans ce paysage que tu dépeins, il me semble important que tu reviennes sur ce qui pourrait spontanément être quelque chose de... d'un peu instable, pas très clair, qui est la cible de ton livre ? Mmh. Est-ce qu'au fond, la cible de ton livre, c'est la normalisation de la communauté gay ? Alors, on l'entend avec des guillemets, d'ailleurs, toi-même, tu l'écris avec des guillemets. Mmh. Est-ce que c'est la normalisation de la communauté gay ? Bref, est-ce que c'est le droit à l'indifférence ? Souvent employé comme tel, ou bien est-ce que c'est la normativité de cette même communauté à l'encontre de minorités extérieures, tu parles ici des musulmans ou des personnes suspectées l'être, mais aussi des minorités intérieures, puisque dans ton livre, tu parles par exemple des folles, à l'image de ce qu'a pu faire Jean-Yves Le Tallec dans son livre « Folles de France ». Quelle est la cible de ton livre, à moins que la cible ce soit les trois à la fois ?
Oui, de cette manière, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas séparable. C'est-à-dire que la cible est essentiellement la normalisation, effectivement, quoi. Et lorsqu'on a affaire à un groupe normalisé, donc les valeurs, finalement, auxquelles ce groupe fait allégeance, c'est également des valeurs dont il va faire la promotion, pourrait-on dire, quoi. Donc, d'une certaine manière, un groupe normé est également un groupe qui va devenir normatif. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Et oui, c'est effectivement cela. Et quand tu parles des musulmans en particulier, là, c'est effectivement tout à fait intéressant, puisque il n'est pas rare qu'on oublie finalement que les d'ailleurs, quand tu disais intérieur ou extérieur, effectivement, les musulmans dont on parle peuvent être tout à fait intérieurs, justement, à la communauté gay elle-même. Et d'une certaine manière, la normalisation ici consisterait à leur demander, d'une certaine manière, de n'être pas croyants, ou s'ils sont croyants, au moins de n'être pas pratiquants, etc. Enfin bref, de prendre l'apéro, éventuellement, des choses comme ça, ça rassure toujours. Voilà, en gros, c'est ça que je critique. Quoi. Voilà, ça serait ça.
Et alors, une dernière question avant de laisser la parole au public. Peut-être une critique plus fondamentale, me semble-t-il, plus que des mises au point et une discussion entre nous. À lire ton livre et à l'avoir lu deux fois intégralement, donc on ne pourra pas dire que je l'ai fait à la volée, il m'a semblé que ton livre manquait d'un certain pragmatisme. D'un certain pragmatisme, au fond, tu évoques peu proportionnellement au reste du livre. Tu évoques peu la question des discriminations LGBTI-phobes, comme il faut bien le dire, hein, aujourd'hui les choses sont souvent liées. Tu évoques peu la question de la santé, notamment l'événement SIDA qui, tu viens de le dire à l'oral, a chamboulé la mise sur agenda politique des revendications de la dite communauté gay. Or, ce qu'on remarque à lire les sociologies de l'homosexualité, car il y a différents sociologues et différentes sociologies hein, de l'homosexualité, on remarque que quand on interroge ce que l'on fait, nous, communauté, de ce qui est fait de nous, donc les homophobies, les discriminations, en tant que gay, plus précisément, puisque toi, tu parles de la communauté gay, moi, de la communauté LGBTI dans son ensemble. Quand on interroge en tant que sociologue ce que la société fait de nous, pour le dire brutalement, eh bien, cela nécessite de prendre en compte des éléments matériels du quotidien. Par exemple, des peurs, des résignations, notamment, on le voit actuellement dans les débats, dans l'espace public, éviter des espaces, des plaisirs, des demandes de reconnaissance... des joies aussi. Bref, comment est-ce qu'on peut penser une politique LGBT, gay en tout cas, pour qui connecterait à la fois ta proposition qui consiste à réenchanter la communauté gay de ses utopies avec des questions quotidiennes, avec des questions presque banales auxquelles tout un chacun et toute une chacune est confronté dans sa vie de gay ou de lesbienne. Comment on connecte ce banal du quotidien avec ses utopies?
D'accord. Alors, ce que je pourrais peut-être déjà dire pour commencer, c'est qu'effectivement, c'est moins un livre de sociologie qu'un livre politique, plutôt. Voilà, de ce point de vue-là, oui. Et par ailleurs, si je n'ai guère insisté effectivement sur les formes de discrimination, etc., si je ne suis pas entré dans ce détail-là, c'est que, d'une certaine façon, il allait pour moi de soi que la demande de mariage gay, par exemple, ne se limite pas évidemment à ce que je peux en dire quand j'envisage le mouvement gay en son ensemble. C'est-à-dire qu'au fond, c'est là que le livre est politique, je m'intéresse beaucoup plus aux groupes qu'aux individus eux-mêmes. Ce qui veut dire que de ce point de vue-là, je ne nie absolument pas que les motivations des uns et des autres puissent être tout à fait diverses et il ne me viendrait jamais à l'idée de reprocher à quelqu'un de s'être marié ou je sais quoi. Je veux dire, chacun se débrouille avec les questions qui sont les siennes, chacun fait du bricolage de certaine manière, avec sa psychologie, avec sa manière d'exister, avec la manière de s'affirmer parfois, etc. Voilà, chacun se débrouille. Je ne vais jamais justement envisager cela du point de vue d'un individu. Donc c'est du point de vue d'un groupe que je me plaçais, Et comme il s'agit en même temps d'un manifeste, il s'agissait pour moi d'aller vers l'essentiel. Et évidemment, si j'avais écrit un livre plus gros, j'aurais pu entrer dans plus de nuances. Mais il me semble que dans un livre aussi court, les nuances auraient brouillé, d'une certaine manière, le message que je voulais faire passer, Voilà. Mais je crois que c'est essentiellement ça, je parle du groupe et non pas des individus, sinon effectivement, là j'étais obligé d'entrer dans une démarche de sociologie et tu as tout à fait raison.
Merci Alain d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions et on vous remercie de votre présence.
Merci.